Ce premier cours d'introduction sera appuyé sur un midrash qui apparemment, comme d'habitude, parle d'autre chose, mais enfin qui est un des thèmes principaux de cette question. Alors on pourrait aborder le problème de manière très différente. Ça veut dire que vous n'avez pas là ici un plan type, pas, mais une manière de pénétrer dans le sujet. Et si d'ailleurs en cours d'analyse vos questions l'orientent autrement, c'est pas du tout grave. Enfin, réagissez de telle sorte que vous puissiez approfondir ce problème. C'est un des problèmes qui sont les plus difficiles à penser en français parce qu'ils sont les plus caractéristiques de la mentalité hébraïque. Bon. Alors, puisque vous avez eu cette année l'enseignement du Rav Ashlag, et que d'une façon générale, d'ailleurs, nous baignons là-dedans depuis quelques années, je vais prendre, si vous voulez, la manière de cette chita de pénétrer dans le problème. Au fond, nous allons nous poser une question. Comment comprendre que s'il y a eu révélation à l'homme, et cette révélation, évidemment, s'adresse à Israël, comment comprendre que l'essentiel de cette révélation, ça soit les mitzvot? C'est-à-dire, on aborde par là une première manière de définir la Torah. Essentiellement, s'il doit y avoir Torah, c'est-à-dire révélation, je vous signale que c'est le sens étymologique du mot de Torah. Hein, avant de signifier toute autre chose, notamment la loi, Torah, ça veut dire révélation. Nous avons déjà vu cela. À quelle racine on pourrait le rattacher? La tour. C'est un beau midrash, mais c'est pas. C'est Velotatour ou Acharel Vachemach. Nous sommes en plein problème contemporain. Le Moré, celui qui montre, ça veut dire qui fait voir. C'est cette racine-là. Je vous signale que les grammairiens ne sont pas d'accord. Enfin, qu'il y a toute une contestation sur quelle est la racine étymologique. D'où le sémantisme, si vous voulez, d'où procède le mot de Torah, certains rattachent à la racine yaro, qui signifie jeter. C'est-à-dire jeter les dés, chercher un oracle. Torah, ce serait un oracle. Mais ça, vous devinez que ce sont des apicorcines qui interprètent quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça nous renvoie à toute cette mentalité de l'histoire des religions primitives, que ce que les Hébreux primitifs appelaient la Torah, ce ne serait pas autre chose que ce que les sociétés magiques appelaient l'oracle. C'est-à-dire cette racine, Yaro, jeter le javelot, jeter le aller à Jactès, enfin, vous voyez à peu près de quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous trouverez chez les grammairiens universitaires ce genre d'étymologie, que ça procéderait de la racine Yaro, qui signifie l'encre. On le rattache à la racine Rao, qui signifie voir, et dans la forme factitive, enfin, je ne sais pas comment on dit factitive, enfin, le Yisrael, pas Har-Hot, les Har-Hot. Les horos aussi, mais surtout faire voir, c'est-à-dire dévoiler. Vous voyez, c'est ce sens-là. Alors, traditionnellement, classiquement, enfin, c'est la notion de révélation. C'est-à-dire, c'est un contenu de connaissance que l'on reçoit de l'extérieur de sa propre conscience. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez bien cela? Est-ce que c'est bien clair? Bon, il est évident que c'est une catégorie, c'est une notion qui, du point de vue du comment de la chose, et comment ça s'est passé historiquement, est enveloppé de mystère. Là, il faut entrer dans les Sifrei Torah pour savoir, pour réaliser, pour plus qu'imaginer, mais enfin réaliser ce fait, cet événement, que de l'extérieur du monde créé, du point de vue du Créateur, procède une révélation, une Torah qui vient éclairer ce qui se passe dans le monde, et en particulier en Israël. Enfin, vous êtes déjà habitué à beaucoup de choses pour pouvoir cadrer ce problème. C'est-à-dire, laissons de côté la manière dont on peut comprendre, par exemple, cette phrase, Vaïdaber, Hachem et Moshe Vemo, et Dieu a parlé à Moïse pour dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre que Dieu a parlé à Moïse et lui a dit? Ça, laissons ça du coup, pour la Kabbalah. Va, Nistar. Mais pour le Pshat, pour le Niglé, voici ce qu'on en entend par Torah, c'est un contenu de connaissance indispensable, et qui cependant ne peut pas être atteint par l'homme lui-même, par ses propres forces. Je vais en donner d'ailleurs une illustration de cette idée telle qu'on l'a appris du Rav Kook cette année au séminaire de Jérusalem. Mais je voudrais d'abord bien définir, que ce soit clair. Voilà ce qu'on entend par Torah. C'est là où l'intelligence humaine peut arriver par sa propre expérience, par son propre fond, par ses propres forces jusqu'au bout. Jusque-là, ce n'est pas encore la Torah. C'est Chochma, mais ce n'est pas Torah. Vous voyez ? Et la Torah se révèle de l'extérieur de cette limite. C'est quand il s'agit de cela qu'on dit Torah. C'est compris? Plus fort. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses dans ce Moshe Kibel Torah Mishinaï, mais effectivement, c'est ça. C'est l'idée. Et, alors, je le rattache donc à cette racine, mais je vous donne un verset tout de suite. Et ta Torah asher yorucha, la Torah qu'ils te dévoileront. Vous retrouverez la référence du verset plus en détail. C'est-à-dire, c'est un enseignement de la Torah elle-même qui est qu'à chaque génération, il faut suivre l'enseignement des maîtres de la génération. Vous voyez comme c'est important de prendre les choses chattes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on n'a pas le droit de suivre l'enseignement des maîtres des générations avant, en mettant entre parenthèses ce qui s'est passé entre eux et nous. Il y a une transmission, et la transmission se reçoit de la chaîne immédiatement, du chaînon immédiatement précédent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et on n'a pas non plus le droit de recevoir l'enseignement des maîtres qui viendront dans 2000 ans. Il faut, c'est clair. Comment dit le verset ? Dor, dor, vachachamav, dor, dor, vedorchav. Connaissez ce verset. Chaque génération a... Alors, vous suivrez, dit la Torah, vous suivrez l'enseignement qu'ils vous dévoileront. C'est la racine que je voulais isoler. Asher yorucha. Vous voyez ? C'est cette racine-là. C'est la racine du verbe voir, mais dans le sens de découvrir. Voir quelque chose que l'on ne verrait pas s'il n'y avait pas une Torah qui révèle, une Torah qui dévoile. Alors, c'est très, très important. Est-ce que c'est bien clair ? Vous voulez la caractéristique. Déjà, à ce niveau-là, la caractéristique de la tradition pharisienne, celle de Perushim, la tradition talmudique, kabbaliste, enfin de la tradition traditionnelle, si vous voulez, ce qui nous sépare de tous les autres groupes qui ont quitté Israël, que ce soit les Sadducéens, que ce soit tout ce que vous voudrez, eh bien, c'est qu'il y a une différence de nature entre une chokhma, une sagesse, que l'homme peut atteindre par lui-même, et qu'on appelle... on a l'habitude de le dire en araméen, mais vous pouvez aussi l'entendre en hébreu, le derecheret d'Arka d'Ara, c'est-à-dire la sagesse nécessaire à la conduite de la vie terrestre. Il y a aussi un derecheret propre à Israël, qui est le derecheret de la Torah. Mais c'est très différent en nature, derecheret et Torah. Vous voyez, il y a une chokhma qui est, comment dire, que l'homme a, non seulement peut, mais a, doit... atteindre de par lui-même. Oui. Et c'est lorsqu'on arrive au bout, à la limite, à la frontière de la sagesse humaine de par elle-même, que la Torah commence à dire quelque chose. Cette même Torah, elle dit des choses plus ou moins fortes, plus ou moins profondes, plus ou moins denses, suivant que le déréférez que l'on possède est plus ou moins grand, plus ou moins dense. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire le même verset, entendu par quelqu'un il y a un peu de déréchérette, dit un peu de choses en Torah. Si c'est entendu par quelqu'un qui a beaucoup de déréchérette, ce verset dit beaucoup de choses de Torah. C'est corollaire. Oui, mais et, il ne faut pas tomber dans le piège et croire c'était donc que la Torah de déréchérette, c'était la même chose. Ça n'a rien à voir. Vous y êtes ? Alors c'est cette formule classique, traditionnelle, « Kadma déréchérette la Torah alpaïm shana » La Torah, le déréchérette a précédé la Torah pendant 2000 ans. Il y a 2000 ans, depuis le premier homme jusqu'au temps où la révélation de la Torah a été donnée, il y a toute une expérience de déréchérette qui aboutit au patriarche d'Israël de telle sorte que la Torah puisse être révélée. Vous comprenez le processus. Mais ne confondez pas le déréchérette et la Torah. Et il y a un déréchérette homogène à la Torah qu'on appelle déréchérette chez le Torah. Il arrive que la Torah enseigne des choses du déréchérette. Et alors on dit la Torah déréchérette. Ici, dans ce verset, indépendamment de ce que la Torah nous enseigne comme Torah, elle nous apprend aussi quelque chose du derecheret. Vous comprenez ce que je dis ? C'est bien clair ? Voilà. Si vous voulez, la caractéristique de l'attitude spirituelle traditionnelle, c'est que, indépendamment de la sagesse propre à l'homme, il y a Torah. C'est ce qu'on appelle, elle est minashamay. C'est pas derecheret, c'est Torah minashamay. Vous voyez la correspondance des formules. C'est bien clair ? Alors faites bien attention, mais pas... tomber dans ce piège, ça c'est l'attitude sadducéenne qui consiste à la limite à identifier ces deux choses. Oui,
est-ce qu'à votre vie aussi,
oui, bien sûr. Tout ça va ensemble, ça fait partie du même sujet. Mais toutes ces formules, justement, ne peuvent être dites que dans la mesure où on entend d'abord que des référés, etc., c'est pas la même chose. Mais l'une et l'autre. Alors je voudrais vous donner la manière dont Rav Kook, pour moi c'était d'ailleurs un grand chidouche quand je l'ai entendu l'année dernière, la manière de le formuler est, je crois, absolument, comment dire, exemplaire. dans les brachot de la tfila, regardez comment les choses se relient. Dans les brachot de la tfila, on parle d'abord de da'at, et après de hashibenu letorater. Vous voyez bien que c'est deux choses différentes. Il y a d'abord une capacité de l'homme à ce qui définit l'homme, c'est la connaissance. Da'at, mais entendez-le en hébreu, cette manière de connaître qui est da'at. Et une fois que c'est obtenu, alors hashibenu letorater. On voit bien que c'est autre chose. Est-ce que vous avez bien compris? Enfin, d'ailleurs, j'ai ce cours là enregistré, ça vaudrait la peine que je vous passe la bande et que vous écoutiez tout. Comment ça a été mis en place? C'est-à-dire, en principe, il faudrait comprendre que la Torah est inaccessible à l'homme, par définition, puisqu'elle est la Torah, c'est donc elle est inaccessible. Oui? Mais, voilà, si vous voulez, pas le mystère, mais le miracle d'Israël, de la chokhma d'Israël, c'est qu'elle est telle, cette chokhma d'Israël, cette chokhma propre à Israël, qu'elle rend l'homme accessible à la Torah. C'est bien clair. Bon, alors, je referme cette parenthèse. Je voulais simplement vous signifier cela, que Torah, ça signifie révélation. C'est pourquoi, lorsque vous étudierez cette expression Torah mina shamaim, il y a presque un pléonasme si on dit que mina shamaim, ça veut dire révélation. Vous comprenez ? Torah, ça veut dire révélation. Et ce qui est en question dans cette expression, est-ce qu'on accepte qu'il y a Torah mina shamaim ou pas Torah mina shamaim, c'est de savoir s'il y a encore une révélation qui vient du ciel ou pas. C'est ça qui est en question. Vous verrez peut-être probablement, si vous étudiez ce texte, que ça fait allusion à la Torah Shebalpé. C'est une certaine hérésie qui consisterait à dire, bon, il y a eu la Torah, mais il n'y a plus. Le fait de dire « en Torah mina shamaim », ça veut dire « pshat », il n'y a plus de Torah qui procède du ciel. Mais c'est Torah qui veut dire révélation. Bon, je referme la parenthèse, c'est encore un autre. Et alors, vous voyez, on va découvrir cela, que l'essentiel de la Torah, et que si révélation il y a, l'essentiel, c'est les mitzvot, c'est la mitzvot. Et c'est une expérience propre à Israël, que si l'homme arrive au point où il est capable de recevoir cette Torah, alors qu'il faut s'attendre à ce que la Torah, c'est les mitzvot. En fait, il y a plus que ça dans la Torah, comme nous avons appris d'autre part. Rappelez-vous la première question de Rashi. Il dit pourquoi il y a tous ces sipurim dans le Chumash, disons. Et la motivation, l'argumentation de la question elle-même, c'était puisque la Torah, c'est les mitzvot. Alors j'isole cette dernière phrase, c'est donc que premièrement, la Torah, dans son sens simple, cette révélation est entendue comme devant révéler la loi, les mitzvot. Et voilà l'étonnement, c'est qu'il y a aussi autre chose. Vous y êtes. Pour remettre les choses à l'endroit, ça veut dire, du point de vue du raisonnement, le postulat, c'est que Torah égale Mitzvot, Shehi, Mitzvah, Rishona, Shenitna, l'Israël. Rappelez-vous de toujours de ce premier rachis. C'est bien clair? Bon, alors nous allons aller à l'exploration de cette notion de la Mitzvah. Bien, alors je vais vous décrire d'abord, de grosso modo, si vous voulez, approximativement, le problème essentiel, c'est l'expérience d'une obligation. Il y a une preuve à faire par rapport à une loi, et cette loi est connue dans la catégorie, dans l'expérience de l'obligation. Ça veut dire, j'ai un devoir à accomplir. Je suis obligé de... J'ai sur moi une mitzvah, ça veut dire quelque chose à accomplir. Et tant que je ne l'ai pas accompli, tant que je n'ai pas satisfait une certaine valeur, eh bien, là, je reste soumis à cette obligation. Si vous voulez, le commencement de cette expérience, c'est la découverte qu'il y a obligation. Alors, je vais essayer de vous donner, d'une première manière, un fondement à cette idée de l'obligation. Ça vous rappellera des choses que nous avons étudiées il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Alors, d'un autre point de vue, si vous voulez, dans un autre vocabulaire, ça signifie que s'interroger sur l'origine, le pourquoi des mitzvot, ça veut dire que l'essentiel de la Torah, c'est les mitzvot, de cette première manière, c'est au fond s'interroger sur ce qu'on appelle, en termes de culture générale, le fondement de l'obligation. Parce que ce fait que la conscience humaine se définit comme étant sensible aux obligations morales est indéniable, c'est un état de fait. C'est un irréductible, nous partons de là. Vous comprenez? C'est-à-dire, C'est une donnée immédiate. La conscience se connaît comme étant sensible à l'obligation. Mais qu'est-ce que c'est que l'obligation? Quelle est la finalité de l'obligation? Pourquoi? C'est bien clair? C'est-à-dire, on peut accepter ou refuser de satisfaire l'obligation, ça c'est l'option de la volonté, mais on ne peut pas refuser ce fait que la conscience consiste dans le fait d'être sensible à des obligations. Est-ce que c'est bien clair? Alors nous aurons à ouvrir tout de suite une bifurcation extrêmement importante que nous aurons à reprendre par la suite. Et alors, à ce moment-là, il y a deux conditions pour que l'obligation soit fondée. D'une part, il faut que je sois capable d'y répondre, sinon l'obligation ne me concerne pas, si je ne suis pas capable d'y répondre, c'est-à-dire il faut que je sois responsable. Et pour être responsable, je vais rapidement, mais vous suivez l'analyse, et pour être responsable, il faut que je sois libre. C'est la première des conditions. C'est bien clair? La deuxième des conditions, c'est que pour être responsable, il ne suffit pas que je sois libre, il faut aussi que je sache quelle est la charte de cette obligation dont j'ai expérimenté. Donc, si vous voulez, à la limite, je vais rapidement, mais enfin, c'est pas difficile tout ça. Pour que la mitzvah soit fondée, il y a au moins deux conditions à remplir. Il faut que je sois libre. Et il faut que je sache. C'est la liberté et c'est la connaissance. Est-ce que c'est bien clair? Il manque quelqu'un. Bon. Eh bien, non, par association d'idées, je crois qu'elle m'avait déjà posé cette question. Bon. Eh bien, alors je parle très rapidement du deuxième point. C'est là qu'on va ouvrir, si vous voulez, deux chapitres. Pour Israël et pour ceux qui ne sont pas d'Israël. L'idée qu'effectivement la Torah de vérité, c'est-à-dire la véritable loi, la véritable charte des obligations, celle qui va donner une signification à l'histoire humaine, à l'existence des hommes, n'est pas connue en dehors d'Israël. Ou dans le principe, n'est pas connue en dehors d'Israël. Si vous voulez en d'autres termes, est-ce qu'il peut y avoir des tzadikim chez les hommes qui ne connaissent pas la Torah? Et si le salut, c'est-à-dire... je redéfinirai tous ces termes, enfin si la signification de l'histoire humaine, ça consiste à être tzaddik par rapport à la Torah, ceux qui ne connaissent pas la Torah, comment peuvent-ils être tzaddikim? Vous comprenez le problème, oui? Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que pour Israël aussi, la question se pose, mais ce n'est pas une question de principe. Tandis que pour les goyim, c'est une question de principe. C'est des hommes qui, dans le principe, sont en dehors de cette révélation de la Torah. Quoique le Midrash le réintègre. Enfin, leurs ancêtres sont responsables. Mais malgré tout, dans l'état de fait, en fait, ils sont en dehors de la relation avec la... Ils ne connaissent pas la charte de la moralité, pour parler en termes français. C'est clair? Alors ça, c'est la définition du problème des Bnei Noir. Alors tout de suite, vous allez ouvrir cette parenthèse. Il y a deux sortes de tzadikim. Les tzadikim... qu'on définit comme Bnei Noar, et les Tzadikim qu'on définit comme Israël. Leur charte n'est pas exactement la même. Je vous explique très rapidement. Être Tzadik, c'est une définition de l'identité de la volonté qui consiste à préférer ce qui est connu comme bien à ce qui est connu comme mal. Hein? Oui? Et au premier niveau, peu importe la connaissance qu'on a de la moralité, c'est-à-dire indépendamment du contenu de la charte par rapport à laquelle on se mesure. C'est-à-dire, c'est une définition de l'attitude de la volonté. Peut-être qu'il se trompe en disant ceci est le bien, ceci est le mal, mais le fait qu'il veuille préférer ce qu'il connaît comme bien à ce qu'il connaît comme mal, c'est ça être tzadique. Alors ça, c'est possible pour tout homme, quel qu'il soit. Une minute, je voudrais d'abord que vous ayez bien compris cela. Lorsque, par exemple, nous avons vu ça un peu au début de l'année avec Noir. Hein? Rappelez-vous, lorsqu'on définit Noir comme tzaddik, mais Noir n'était pas tzaddik par rapport à la Torah. Hein? Alors en quoi était-il tzaddik? Alors nous avons là une définition du tzaddik qui est très importante. Ça veut dire que, indépendamment du contenu de la connaissance de la moralité, c'est l'identité, l'être de chaque personne qui peut être défini comme tzaddik ou pas, dans l'option de sa volonté, dans l'attitude de sa conscience, finalement. C'est-à-dire préférer systématiquement être orienté de cette manière, préférer ce qui est connu comme bien, ce qui est connu comme mal, c'est ça être sadique. préférer ce qui est connu comme mal à ce qui est connu comme bien, ce serait être achat. Et déjà, en deçà ou au-delà, si vous voulez, du contenu des actes tels qu'ils sont adaptés ou pas adaptés à une charte, celle-là ou une autre. C'est-à-dire, quelle que soit la société ou la culture dans laquelle un homme vit, il peut être sadique ou rachat. Mais à la limite, étant donné que ce n'est pas par rapport à la loi de vérité, on ne l'appelle pas sadique, on l'appelle chassid. Enfin, ça c'est une nuance qu'il faut que vous ayez bien en tête. On les appelle chassidé ou motarolam, on ne les appelle pas sadiqué ou motarolam. Parce que sauf, ils n'ont pas la loi morale vraie. Et que le fait d'être sadique, pour eux, c'est une chassidoute. Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est clair pour tout le monde? Bien. D'autre part, deuxièmement, le tzaddik d'Israël, le tzaddik en vérité, si vous voulez, pour employer ces termes, c'est celui qui est tzaddik par rapport à la véritable loi morale, c'est-à-dire aux mitzvot de la Torah. Alors ce sont deux catégories complètement différentes. Si on est situé en dehors d'Israël, on peut être tzaddik, bien qu'on n'ait pas la Torah. Si on est situé en Israël, être tzaddik, c'est par rapport à la Torah. Alors encore une fois, comme en dehors d'Israël, il n'y a pas la Torah, alors on ne dit pas tzaddik, on dit chassid, mais parce que le fait d'être tzaddik pour un ben noir, c'est chassidout. Ça correspond à ce qui est à être chassid en Israël. Vous comprenez pas cela? Je vais vous donner tout de suite une première définition qui me semble assez importante quand même, hein, surtout cela dans l'enseignement de Judas Lévi, c'est ceci. On définit quelqu'un comme tzaddik lorsqu'il s'est mesuré, il est relié à une obligation dont il est obligé. Si j'ai un devoir à accomplir et que je l'accomplis, on appellera ça tzaddik. Mais si je réalise cette valeur alors que je n'ai pas l'obligation, on appelle ça chassid. Regardez, il n'y a pas que ça dans ce problème. Mais je veux d'abord que vous entendiez ça. On appelle quelqu'un chassid lorsqu'il réalise une valeur en deçà ou au-delà de l'obligation. L'ifni mishurat adin. Shurat adin, c'est la loi de l'obligation telle qu'il faut l'accomplir. Si on est l'ifni mishurat adin, soit en deçà, soit en delà, on est chassid. Ça, c'est la définition de Judas Lévi. Oui.
Alors, est-ce que les motarolams,
chassidim, les motarolams,
alors, c'est donc, en fait, ils n'ont pas d'obligation?
Non, c'est-à-dire que, en fait, vraiment, il n'y a qu'Israël qui est sauvé de la Torah, vraiment, puisque c'est lui qui l'a accepté. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bien que, étant en porte-à-faux par rapport à ce problème des mitzvot, les goyim peuvent être récupérés. Parce que, premièrement, être sadique, c'est la définition de l'attitude de la volonté. Enfin, je suis peut-être allé un peu trop vite pour vous expliquer pourquoi, cependant, on ne les appelle pas tzadikim, mais chassidim, je veux dire dans le vocabulaire exact. En parlant comme ça dans la langue juive, on dit d'un goy c'est un tzaddik. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? C'est un chassid. Vous voyez le problème? Parce que réaliser une valeur, alors que l'on n'est pas obligé de la valeur, chargé d'eux, ça c'est chassidout. Ça va, tu fais une minute, je voudrais dire quelque chose. Disait toute la conduite consiste à broder autour de cette coordonnée. Alors on peut être au-dessus ou au-dessous. Si le kivoun, si la kavana est kshera, bon. Mais est-ce que vous avez mieux compris alors la différence entre tzaddik et chassid? Ce que nous voyons là, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le problème. D'accord? Mais l'identité du chassid procède d'une autre vertu que l'identité du tzaddik. Agir par générosité, par exemple, ce qui est la motivation du chassid, par ferveur, eh bien, c'est tout à fait autre chose que d'agir pour être en conformité à la loi. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas la même expérience. Est-ce que c'est clair? Bon, enfin, finalement, l'objectif, dans la catégorie de la mitzvah, c'est pas chassidoute, c'est tzaddik, c'est d'être en conformité à la loi. Il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et c'est pourquoi je vous disais donc assez rapidement, ce qui fait que lorsqu'on fait plus ou lorsqu'on fait moins, alors on est dans l'ordre de du salut, si vous voulez, mais pas en tant que tzaddik. C'est pourquoi les tzaddikim, les bnei noirs, on les appelle chassidoutes. Vous y êtes, parce qu'ils n'ont aucune chance d'agir en conformité au dîme. Aucune chance. Seulement, ils sont dans l'ordre de la bonne volonté. Alors, celui qui est dans l'ordre de la bonne volonté, normalement, on l'appelle tzaddik, s'il n'a pas eu la connaissance de la Torah. Mais puisqu'il n'a pas eu la connaissance de la Torah, on ne peut pas l'appeler tzaddik, on l'appelle chassid. Est-ce que c'est bien clair? Bon, enfin, ça c'est un thème pour lui-même, vous pouvez y revenir et y réfléchir. Mais je referme la parenthèse. Nous voyons donc qu'il y a deux conditions essentielles pour que la mitzvah soit fondée. Premièrement, la liberté. Parce que si, et il faudra comprendre ce que ça veut dire la liberté dans les termes de la Torah, voilà. Vous retrouvez ce fameux midrash, Al-Tikre Harut et la Harut. Et parce qu'effectivement, le fait de connaître ce qu'il y a à faire libère. Hein, si je sais quelles sont les véritables mitzvot, si je sais quelles sont les véritables obligations, je suis libéré de toute la préoccupation de la conscience qui m'enchaîne et qui me fait bifurquer, enfin qui me ligote tant que je ne sais pas quelle est la vraie loi. Je veux dire, la connaissance de la Torah donne la liberté. Bon, ça c'est encore un autre thème. C'est un peu, si vous voulez, annexe, quoi que ce soit connexe, mais je reviens au problème, deux conditions pour pouvoir être responsable. Il faut que je sois libre, mais pour pouvoir être responsable, il faut que je connaisse, bien entendu. Vous voyez l'importance que le commandement de Talmud Torah prendra dans une telle tradition. Que la mitzvah essentielle, avant toute chose, va être celle de connaître la Torah. Et alors c'est là que s'ouvrent ces deux manières d'être tzaddik. Tzaddik comme Noah, ou tzaddik comme Abraham. Tzaddik comme Noah, c'est qu'il est dans l'attitude du tzaddik, mais il ne connaît pas vraiment ce qu'il y a à faire. Tzaddik comme Abraham, c'est d'être déjà dans l'attitude du tzaddik, mais par rapport à la véritable loi. Donc, je sais par expérience, si vous voulez, enfin nous savons par expérience, c'est un problème qui gêne beaucoup. On va apprendre que les mitzvot, c'est ce que l'homme a à faire pour que l'histoire du monde réussisse. Oui. Ce sont les obligations qu'il faut remplir pour que le monde puisse réussir. Bon, alors, et tous les autres qui ne connaissent pas les mitzvot. Bon, mais il y a un autre registre pour eux. C'est tzaddik à la manière des Bnei Noach, c'est-à-dire chassid. Chassidé ou modar olam. Vous voyez, les justes des nations, on les appelle les chassid. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, leur conduite est autre que celle de l'adéquation à la loi. Elle est le fait de se soumettre et de réussir des valeurs alors qu'ils n'ont pas les conditions de l'obligation. C'est Israël qui est obligé de la loi. Parce qu'Israël est fabriqué de manière telle qu'il puisse être libre par rapport à cette loi que d'autre part il peut la connaître. Bien, je vous ouvre une petite parenthèse à cette première condition qui est très importante et qui est le problème de la liberté. Voilà, alors c'est là que je voulais vous introduire de nouveau le schéma de base de l'enseignement du Rav Ashlag et qui est le suivant. Nous allons reprendre ça très rapidement. Ça veut dire, je ne me souviens pas si on a vu ça assez en détail, mais enfin vous pouvez relier tout ce que vous avez entendu à ce sujet. Bien, voilà. La catégorie de laquelle il faut partir, toujours, puisque c'est le premier enseignement de la Torah, c'est la création. C'est-à-dire, l'être que nous sommes est un être créé. Et vous savez déjà le contenu de cette notion. L'être que nous sommes est un être créé, c'est-à-dire que nous avons reçu l'être que nous possédons. Bien, deuxième point. Et cet être que nous possédons et que nous avons reçu, pour qu'il nous appartienne, il faut l'obtenir. La réalisation des mitzvot, c'est le moyen par lequel nous acquérons l'être que nous avons. Bon, vous saviez déjà ça, non? Alors, c'est le schéma général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, la force de cette expérience qui fait que les valeurs morales s'adressent à notre conscience sous forme d'obligation? Qu'est-ce qui fait cet impact d'obligation, ce qui fait la gravité de l'obligation? C'est le fait que c'est notre être qui est en jeu. C'est le sens de notre destinée qui est en jeu chaque fois que nous percevons un commandement de la conscience. Voilà, il y a là, et je dois vous dire d'ailleurs, c'est l'enseignement de tous les maîtres d'Israël, enfin pour ma part, c'est surtout dans l'enseignement du Rav Ashlag que je l'ai entendu de façon la plus claire, mais enfin c'est toutes les chitotes qui enseignent comme ça, ne croyez pas que c'est une doctrine parmi les autres. C'est que si nous voulons comprendre, d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est clair, c'est que vous ne le trouverez pas écrit dans les textes. Ça ressort de l'enseignement, dans son texte même. Si nous voulons comprendre pourquoi la conscience est atteinte ou étreinte de cette espèce de gravité du commandement de la moralité, c'est parce qu'il faut y entendre l'enjeu de notre destinée. Tu as été créé, il faut que tu acquières le droit d'être, et c'est à travers l'ordre des commandements de la moralité que ce problème est en jeu. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, qu'est-ce qui parle dans l'obligation? C'est le sens de la destinée. Pourquoi c'est tellement grave? Il n'y a pas de mot dans une langue comme le français, parce que c'est une langue dérivée du latin, finalement. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave dans tzivoui? Tzivoui, c'est ratson Hashem. C'est ce que désire le créateur. Mais en tant que quoi? Par caprice? Parce qu'il est le créateur, là, il peut me demander n'importe quoi? Il y a beaucoup plus que cela. C'est le fait que c'est l'ordre de valeur par lequel j'aurai à justifier le fait qu'il m'a créé. Ce que j'entends, lorsque je dis j'entends la voix du créateur, ce que j'entends, c'est l'enjeu de ma destinée. Voilà, ça c'est la sensibilité hébraïque, puis juive, traditionnelle. Le commandement de la moralité véhicule le problème religieux. C'est ce qui nous différencie de toutes les philosophies. Vous comprenez? Lorsque le problème moral se pose à nous, il se pose à nous en tant que problème religieux, c'est-à-dire c'est le problème de la destinée de l'être créé. Alors, vous voyez le schéma général. Hein? C'est que ce qu'on pourrait appeler la majorité humaine, la bar mitzvah, la majorité, la maturité, c'est d'être sensible aux autres et être occupé à chercher à être tzaddik, c'est-à-dire à être conforme à l'ordre des mitzvot, c'est-à-dire à la Torah, c'est être occupé à acquérir son être. Chaque fois que je réalise une mitzvah, je confirme la création d'un point de mon être que Dieu m'avait donné en grâce. Voilà grosso modo toute la religion, en fait toute la tradition. Est-ce que c'est bien clair? Il y a une certaine identité à réussir. Et pourquoi c'est une obligation? Parce que je n'ai pas le droit d'être tant que j'ai réussi, avant de réussir cette identité. Je n'ai pas le droit. C'est pourquoi je perçois ça comme une obligation. Je suis obligé, puisque j'existe. Je dois. Vous voyez pourquoi la mitzvah véhicule l'expérience du devoir. Est-ce que c'est bien clair? Vous retrouvez les expressions traditionnelles. Lo yasa mide hovato. Il y a une hova, une obligation. Pourquoi? Parce que j'existe. Alors je dois payer littéralement le prix de mon être. Alors si vous voulez, l'originalité, enfin c'est un mot que j'aime pas beaucoup dans ce problème, mais en tout cas, la spécificité du judaïsme, c'est d'avoir identifié le problème moral et le problème de la destinée. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Et en particulier dans le christianisme, il y a dissociation intentionnelle de ces deux problèmes. C'est que la morale, ça devient une chose, ça a demandé à César, et puis la religion, ça devient une autre, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on a renoncé à cette intuition juive fondamentale que c'est la même chose, que c'est pas la réussite de la moralité, que la destinée est sauvée. Enfin, je vous ai employé des mots très approximatifs dans tout ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris l'idée de base. Voilà pourquoi la mitzvah a un sens religieux, ou inversement, pourquoi l'obligation morale est entendue sous forme de mitzvah. Et ces mitzvot, vous le savez, se distribuent dans les trois secteurs que nous retrouvons toujours. Vous avez étudié ça dans le plan des 10 commandements, vous rappelez, enfin, des Aseret HaDibarot, des 9 commandements, vous rappelez, se distribue à tous les niveaux où il y a preuve d'identité à faire. C'est bien clair. Voilà la première chose qu'il faut découvrir. D'une façon générale, si vous voulez, c'est beaucoup plus précis dans l'enseignement des kabbalistes, mais c'est l'enseignement de tous les rabbins. Simplement, les kabbalistes ont mis plus l'accent sur cette notion de l'acquisition du droit d'être, lequel être avait été donné en cadeau. C'est-à-dire, dans l'atmosphère de la Kabbalah, on dépasse un peu cette attitude de discipline pure et simple, qui est une vertu en elle-même, d'ailleurs. Le fait que Dieu a dit, alors c'est ça l'obligation. Mais ça va un peu plus loin. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit pas n'importe quelle loi, il a dit la Torah Emet, c'est-à-dire ce que j'ai à faire pour acquérir l'être qui m'a été donné en création. Vous retrouvez tout cela dans le Midrash, surtout des Haggadot de la Gemara, à propos de la sortie d'Égypte. La libération d'Égypte a été donnée à l'avance, cadeau, et il faut la racheter en pratiquant la Torah. Je vous ai sorti d'Égypte afin que vous obéissiez à ma loi. Vous avez certainement retrouvé ces phrases très souvent. Bon, ça ne veut rien dire si on ne le voit pas à ce niveau-là. pas ? C'est-à-dire que c'est le même processus à l'échelle historique du peuple d'Israël comme être collectif. Avadaïchem, c'est Amenaskar. Je vous ai sorti de l'Égypte en vue que vous obéissiez à ma loi. Pourquoi ? Caprice ? Pas du tout. Voilà la charte par laquelle vous confirmerez, enfin vous justifierez, vous réaliserez cette libération de l'aliénation d'Égypte avec tout ce que ça signifie, l'asservissement à la vie corporelle, à la vie instinctive, à la vie animale, en fait. L'accession à l'identité d'être humain, vraiment, la sortie d'Égypte, eh bien, elle est donnée à l'avance comme cadeau, et il faut la payer, les mafréards, la payer a posteriori par la pratique de cette loi. Anochi Hashem Elokecha, Shoseti Echa Meretz Misraël. Mais voilà comment il faut faire pour le réussir. Voyez, vous avez très souvent, vous avez dû étudier cela dans les Zmanim, dans le cours sur le calendrier, cette correspondance entre la sortie d'Égypte et la création du monde. La création, c'est l'origine de notre être à l'échelle individuelle. La sortie d'Égypte, c'est l'origine de notre être historique en tant qu'Israël. En tant que Shabbat de Maase Bereshit, ben nous sommes hommes sur terre. Oui. Et Shabbat de Yetziat Misraïm, nous sommes Israël. Oui. Les deux références que la Torah donne au Shabbat, par exemple. C'est bien clair. Yetziat Misraïm et Maase Bereshit. Zikaron et Maase Bereshit, Zecher Yetziat Misraïm. Oui, c'est le même enseignement à deux niveaux différents. Le premier nous atteint dans notre être individuel, d'existant. Oui. Le second nous atteint dans notre être d'Israël. Alors, mais c'est le même processus. De même qu'à la sortie d'Égypte, la libération est donnée à l'avance et il faut l'acquérir a posteriori, de même à la création du monde, l'être tout court nous est donné à l'avance. Il faut l'acquérir a posteriori. Mais oui, j'insiste beaucoup parce que j'ai fait le tour pratiquement de toutes les philosophies qui sont occupées du problème moral, du problème du fondement des valeurs. Voilà. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure, mais il y a là une position particulière. Ce qu'on entend dans l'expérience de l'obligation, c'est la mise en jeu de la destinée. Et nous verrons d'ailleurs pourquoi plus en détail tout à l'heure. Un peu plus loin, voilà. Lorsque vous découvrirez les différents systèmes concernant le problème moral, vous verrez que finalement le problème central, c'est le problème du fondement des valeurs. Quelle est la source, quelle est l'origine de l'obligation ? Et vous verrez aussi, c'est une donnée extrêmement importante, que même des systèmes, si vous voulez, qu'on pourrait définir comme anarchistes, pour employer les catégories contemporaines, c'est-à-dire celles qui mettent la moralité elle-même en question, tout commandement et toute valeur, et le font ou non une valeur. C'est-à-dire c'est un problème inéchappable. C'est-à-dire la contestation de la moralité elle-même est elle-même une position de la moralité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien clair, je crois que vous avez dû l'expérimenter. C'est au nom d'une valeur que un certain système de valeurs est mis en question. C'est-à-dire, dans tous les cas, la démarche de la conscience, hein, c'est d'ériger comme critère de sa conduite une certaine valeur. À la limite, dire que la véritable valeur, c'est qu'il n'y a pas de valeur, c'est encore une manière de considérer la valeur. Ça procède du même comportement de la conscience. C'est bien clair ? Bon, c'est entremêlé d'un problème psychosociologique compliqué que vous êtes en train d'expérimenter et de découvrir. Mais enfin, finalement, on l'exprime de la manière suivante, le problème moral est inéchappable. Même l'attitude de la conscience qui consiste à mettre en question le problème moral lui-même est elle-même une position de la moralité. C'est bien compris ? Bon. Et alors, chaque fois que les philosophes, en fait, les penseurs, ont réfléchi sur l'origine de l'obligation morale, c'est-à-dire ce qui est en question dans notre problème, ce qu'on entend par mitzvah. C'est mitzvah de faire ça, c'est mitzvah de ne pas faire ça. Vous voyez ? Mitzvot ha'aseh, mitzvot lo ta'aseh. La mitzvah dit que ça il faut faire, la mitzvah dit que ça il faut pas faire. Vous y êtes ? Qu'est-ce que c'est que la mitzvah ? C'est donc le fait qu'il y a obligation. Et nous avons déjà appris que nous entendons cette obligation comme mettant en jeu notre existence même. Ça veut dire ça, d'emblée, une résonance métaphysique. C'est bien clair. Vous aurez l'expérience, si vous parlez à des goïms ou même à des juifs assimilés de ces problèmes, à quel point ça leur est hermétique. Nous ne comprendrons pas. À quel point l'éducation chrétienne, en tout cas dans les pays où nous vivons, est arrivée à évacuer cela. C'est-à-dire que c'est la même chose. Que le problème moral et le problème de la destinée, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes victimes d'un temps culturel où ça a été dissocié. Regardez comment parle Bergson, les deux sources de la morale et de la religion. C'est à ça que tu pensais. Bon. Eh bien, il n'y a pas deux sources, il y a une source.
Et comment se pose le problème pour Adam ?
Ah, de la même manière. De la même manière. Là, le Midrash dit une mitzvah, il avait réalisé, et une mitzvah, il a gâché. Et quand il s'est rendu compte qu'il a gâché sa mitzvah, il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors, la Gemara pose la question suivante. Même un aveugle voit qu'il est nu. Que ça veut dire, il dit qu'il était nu ? Regardez du cours de la Gemara. Même un aveugle voit qu'il est nu.
Nu
de mérite. Il avait une seule mitzvah, il est dénudé de mérite. C'est-à-dire que, je voudrais encore insister là-dessus. Vous avez connu des juifs. Bon. Et dans la tradition juive, et le livre juif, c'est toute l'atmosphère de la tradition juive. Il y a une gravité particulière à dire ça, c'est une mitzvah. C'est assour, moutard. Les choses sont graves. De quoi est faite cette gravité ? C'est qu'on a expérience, plus ou moins consciente d'ailleurs, plus ou moins lucide, que ce qui est en jeu, c'est Aaron Amaba. C'est mon être, c'est moi qui est en jeu. C'est pas tel ou tel avoir en avoir un peu plus, un peu moins de vertu. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est avoir déjà un peu plus ou moins d'être. On dit que quelqu'un a fait mitzvah, vraiment, il a fait mitzvah, kana olamo. Il a acquis son monde, ça veut dire son être. C'est pas que dans son stock de mérite, il a une pièce de plus. Il a, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une comptabilité d'avoir, c'est une comptabilité d'être, donc ce n'est pas une comptabilité. Enfin, dans les textes du Zohar, on dit qu'on ne compte pas les mérites, on les pèse, vous voyez la balance, on pèse. Ça se pèse, les mitzvot, ça ne se compte pas. Vous voyez la différence. Et qu'est-ce qui est pesé ? C'est notre propre être qui est pesé. Voilà, vous allez retrouver d'ailleurs des formules simples que vous avez dans les textes. Il s'agit d'acquérir a posteriori un être qui est le nôtre, mais qui nous est donné, qui nous est prêté. Regardez, vous retrouvez le catéchisme des enfants. L'être nous a été prêté, et tant qu'on ne l'a pas confirmé, il n'est pas nôtre. À partir du moment où il est acquis, la mitzvah réussit. Vous voyez, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend dans cette gravité du terme de mitzvah ? C'est le fait que ce qui est en jeu, ce n'est pas stam les vertus, comme disent les moralistes. Ça, c'est des référés, c'est ma'asim tovim. C'est des bonnes actions, c'est des référents, pas encore à ce niveau-là. Ça ne va pas au niveau où le Talmud prend le problème de la mitzvah. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est mon être. Vous voyez que ça dépasse absolument tous les systèmes de moralité, quels qu'ils soient, que vous pourrez explorer dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et si jamais ce qui est en jeu dans ces révolutions culturelles contemporaines, c'est un peu cela, alors vraiment, c'est que les choses ont changé. Si cette espèce de déflagration des systèmes recouvre cela, et peut-être qu'il y a un peu de ça. Parce que il y a ce piège du romantisme. Parce que les romantiques, on dit ça. À chaque stade romantique d'une culture, c'est ça qu'on dit. Oui, mais c'est de la poésie. On est à l'abri de quelque chose. Et c'est de la poésie. Alors si vraiment on n'est pas à l'abri, si vraiment c'est pas de la poésie, alors il s'agit déjà d'une redécouverte de l'identité d'Israël. Ça veut dire que ce qui est en jeu dans la vertu, c'est, et dans l'ordre du comportement, c'est encore une fois la destinée, dans le sens absolu. Vous voyez ? Et je vous dirais que l'origine de cette névrose de l'adolescence, surtout la crise de l'adolescence, là, qui consiste à tomber dans le désespoir, si on n'arrive pas à être lié à un ordre des choses cohérent de ce point de vue-là, c'est parce que c'est cela qui est pressenti. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça risque très exactement de faire basculer dans la névrose pathologique. Pourquoi ? Parce que c'est précisément l'être qui est ressenti, son propre être qui est ressenti comme étant en question dans l'ordre des valeurs et pas seulement un ordre des valeurs extérieur à mon être. Que je pourrais avoir telle civilisation, telle politesse, telle culture, telle, tout ce que vous voudrez, mais que d'autre part je suis. Si on pressent que c'est l'être que je suis qui est en jeu dans l'ordre des valeurs, alors, vous voyez pourquoi c'est une sorte de névrose qui atteint surtout les juifs. Parce que pour la conscience juive, c'est une donnée immédiate. Je veux dire que... tu fermes la parenthèse. Voilà à quoi on assiste dans les différents systèmes qui parlent de ce problème. Et j'essaierai de vous mettre en évidence le minimum commun de postulats qu'il y a dans les différents systèmes de doctrine morale en dehors de la Torah. Vous avez dû remarquer cela. C'est que les philosophes passent leur temps à réduire l'obligation morale à autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire à évacuer ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Par exemple, prenons le système de la morale sociologique.